BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Tout pour investir et vous aider à décrypter cette séquence de publications qui démarre côté US et aussi en Europe, en France, de notre côté. Félix Baron, le fondateur du Club des investisseurs indépendants, est avec nous. Bonjour cher Félix.
Bonjour Lorraine.
Nos auditeurs fidèles ont l'habitude de vous entendre le mercredi. Mais j'avais besoin de vous au début de semaine parce que voilà, il y a plein de choses à surveiller. On a les bancaires qui ont commencé à publier côté États-Unis. Vous allez essayer de nous éclairer pour comprendre un peu mieux ce que ça dit de la saison qui démarre. Et puis, on avait un petit exercice de style. Je vous ai demandé de nous lister les thèmes en particulier que les opérateurs de marché regardaient attentivement ou allaient attentivement regarder pour que nous, eh bien, investisseurs particuliers, on puisse s'en inspirer. Nous allons commencer peut-être par se raconter ce qui s'est passé vendredi avec les publications bancaires et ce qu'on doit en retenir.
Ce qu'on doit en retenir, c'est que ça représente bien le paradoxe de la psychologie ultra court-termiste des marchés qui pensent que les arbres peuvent monter jusqu'au ciel. En fait, il y a eu trois bancaires qui ont publié, JP Morgan, Wells Fargo et Citigroup. Et la seule qui fait mieux que l'année dernière, c'est celle qui déçoit. Wells Fargo et Citigroup, elles ont baissé, mais comme cette baisse est conforme aux attentes, ça rassure les marchés. Alors que JP Morgan, a un bénéfice net en hausse de 6%, mais la hausse n'est pas assez élevée pour les marchés. Donc ça en dit long en fait sur des attentes qui sont complètement irrationnelles du marché.
Ouais.
Mais ça donne une tendance, c'est selon donc les analyses de Bloomberg, le T1 2024 va a priori être celui qui a la croissance des bénéfices la moins forte depuis le T1 2019. Alors, le corollaire de tout ça, c'est l'inflation modérée, que n'arrive pas justement à trop modérer et à endiguer la réserve fédérale US. Et ça donne, en fait, plusieurs thèmes d'investissement pour savoir choisir un peu ses actions d'ici la fin de l'année. Le premier truc qui saute aux yeux, c'est la concentration des bénéfices, de la croissance du bénéfice par action sur les Magnificent Seven.
Sur la tech.
Vous avez les 7 plus grosses boîtes du monde, donc, dont on n'a pas besoin de rappeler les
Je
noms.
Je le fais, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta et Apple.
Vous allez très vite. Et eux, ils vont très fort parce qu'ils vont représenter 38% de progression des bénéfices sur le T1. Et c'est ça qui tire le S&P 500, parce que si on enlève la concentration des 7 des 7 magnifiques, la croissance des résultats nets n'est plus que de moins 2%.
Non, ouais.
Vous imaginez la surpondération. Mais le plus intéressant, c'est que les analystes de Bloomberg tablent sur un inversement de la tendance au T4, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, cette surpondération, elle aura beaucoup moins lieu d'être. On aura 18% représenté, de croissance des bénéfices représentée par le S&P 500 et plus que 15% pour la tech.
Encore on pourrait qualifier cet inversement du coup d'un retour à la normale. Est-ce qu'il y a une normale ?
Il y a un retour à la normale, en fait. Il y a un retour au normal de saison, au normal d'inflation, dans le sens où il y a des secteurs qui profitent d'un retour à une inflation modérée. C'est ceux qui ne sont pas essentiels, indispensables à l'économie. Je pense, par exemple, aux technologies de l'information.
Rappelez-nous ce que c'est que les technologies de l'information. Parce que quand on parle de tech, souvent, on met beaucoup de choses dedans. La technologie de l'information, très concrètement, qu'est-ce que c'est ?
Technologie de l'information, on va avoir par exemple, on est sur BFM Business, des chaînes de TV, on va avoir de la presse digitale, on va avoir ce genre de... c'est des exemples, mais on va avoir ce genre de consommation en fait qui n'est pas indispensable au quotidien pour des consommateurs par rapport à de l'énergie, de la consommation discrétionnaire alimentaire ou bien ou des transports. Donc dans un contexte d'inflation normale modérée, techno de l'information, services de communication, équipement public, infrastructure qu'on avait laissé sans les maintenir ou sans investir, eh bien là, quand le coût de l'argent est un peu plus faible, qu'on revient à une inflation modérée, on peut se remettre à investir sur les infrastructures. Donc ça, c'est les trois secteurs qui devraient dont les sociétés devraient voir les bénéfices par action le plus augmenté en 2024. Il y en a 7 en tout, des secteurs qui vont être bien dynamiques. En plus de cela, la santé, l'énergie, matériaux, métaux, mines, et puis je l'ai dit, infrastructure, technologie de l'information, technologie de l'information et services de communication.
Bon, ça, c'est ce que vous anticipez. Il y a un sujet quand même autour du cash, autour de l'argent, qui quand même est présent.
Il y a énormément d'argent. Pourquoi ? Parce que comme l'argent coûte plus cher depuis maintenant plus de 2 ans, on n'en a pas vraiment emprunté. Donc on a beaucoup moins de dettes à rembourser depuis 2 ans. on arrive à des niveaux de cash et des niveaux de cash flow qui sont extrêmement élevés. Et comme le contexte, bon, on dit qu'il est incertain depuis 2 ans, mais ce qu'on voit, c'est que ça monte.
Ouais.
Il a été assez peu propice, en fait, aux acquisitions. Mais là, si vous faites la somme donc du cash flow, donc du free cash flow qui va arriver juste sur les entreprises du S&P 500 pour le premier trimestre, c'est 400 milliards de dollars. Et si vous faites la somme des positions de trésorerie, donc si vous sommez tous les comptes en banque des 500 boîtes du S&P 500 au 31 mars 2024, vous avez 2500 milliards de dollars.
Voilà, quand on parle de cash, voilà les volumes.
Voilà, bah en un trimestre, en fait, la photo au T1 qu'on prend sur le S&P 500, c'est l'équivalent un petit peu moins du PIB français. Et ça, c'est 500 entreprises américaines. Mais ouais, c'est une bonne nouvelle, ce niveau de cash, pour les actionnaires, parce que s'il n'y a pas d'acquisition, il va y avoir forcément des rachats d'actions. Et les rachats d'actions, bon, ça réduit un peu de capital, mais c'est toujours ce qu'on récupère en rendement pour les actionnaires.
Et pour ceux qui nous écoutent en différé, on est mi-avril, hein, mi-avril 2024. On essaye de se projeter en ce début de saison de publication. Revenons à nous, petits investisseurs particuliers, épargnants. Quelles sont les actions que l'on peut prendre en se basant sur ce que vous venez de constater, Félix?
Si on regarde sur les sept secteurs magiques là, dont les bénéfices ont augmenté en 2024, santé, on peut toujours regarder, je pense que même si les multiples sont délirants, on peut toujours regarder les dossiers dont on a déjà parlé ici sur les médicaments anti-obésité et avec le GLP-1 donc autour du diabète. Pas forcément parce que ils sont à des multiples intéressants, je viens de dire plutôt le contraire, mais parce que ils ont un succès et une demande telle qu'on arrive à des pénuries un peu dans tous les pays. Il y a des pénuries en Europe, il y a des pénuries aux États-Unis, donc ça peut être intéressant de continuer à jouer sur cette demande. Ça, c'est pour un investisseur qui a l'estomac bien accroché et qui a une gestion dynamique. Dans la santé, on peut aussi tabler sur des distributeurs ou des pharma européennes qui ont moins progressé peut-être que les pharma US dans les dernières années. Je pense à des Sanofi, par exemple. Ouais. Qui pourraient voir des phases 3 ou des autorisations de mise sur le marché sur des lignes de recherche et développement enfin se concrétiser et en plus-value pour les actionnaires.
Même constat pour GSK ou Roche ?
GSK ou Roche ? Alors, GSK, plus gros marché US. Roche, toujours intéressant parce que j'aime énormément, et vous le savez, la stabilité et la prédictibilité des marchés suisses. Mais c'est toujours bien d'avoir un peu de Suisse en portefeuille, que ce soit en santé ou même en agroalimentaire ou en immobilier. Il y a des valeurs intéressantes.
Donc ça, vous nous avez creusé un petit peu sur la santé. Dans les autres secteurs que vous avez identifiés avec potentiel, tout ce qui va être énergie, matières premières, mines, qu'est-ce qu'on peut dire ?
L'énergie, je suis désolé de le dire, malheureusement, le pétrole à la cote, hein, toujours plus. C'est peut-être, avec l'or, c'est peut-être, entre guillemets, la matière première qui progresse le plus et le mieux depuis le début de l'année.
Pour ceux qui nous écoutent en direct, le Brent est toujours en dessous de 90 dollars ce matin, autour de 89,42.
Voilà, ça teste le Brent et teste certains seuils sur les marchés. Mais la réalité, c'est qu'on s'aperçoit qu'après 2 ans, on revient sur le thème de l'argent qui est plus cher, mais où les subventions s'arrêtent sur les nouvelles énergies, où ça coûte finalement un peu cher d'installer des éoliennes, des panneaux solaires, de subventionner des startups d'hydrogène, même si c'est le futur et qu'il faut aller vers un mix, la demande de pétrole, elle est stable. Et si vous faites pétrole plus gaz plus charbon, vous êtes à 81% du mix énergétique mondial. Donc c'est juste une tendance qui est parfaitement liée à la croissance démographique mondiale.
Voilà, qui aussi donne une idée du chemin qu'il y a à parcourir vers un monde sans pétrole, sans gaz.
Évidemment.
Un autre secteur sur lequel peut-être on aurait pu s'arrêter, j'ai une question d'auditeur pour vous. C'est Alain qui a bien noté que vous n'étiez pas là, que vous étiez là mercredi, mais que vous êtes là aujourd'hui, qui nous demande qu'est-ce qui se passe sur le titre Stellantis. Qu'est-ce qu'on peut dire et est-ce qu'on peut raccrocher le wagon Stellantis à ce qu'on vient de décrire ou pas du tout?
Bien sûr. Stellantis, on disait la semaine dernière que c'était plus 100% de création de valeur depuis l'introduction en bourse en 2021. Est-ce qu'il faut s'arrêter là? Non. Plus 50% depuis un an, est-ce qu'il faut s'arrêter là? Toujours pas. Stellantis est un conglomérat automobile comme on en a rarement vu. C'est très rare de voir un conglomérat intercontinental puisque il y a des usines et des constructeurs aux États-Unis et en Europe. Il y a un portefeuille de marques extrêmement équilibré, et ça c'est la force des plus grands groupes. Si vous regardez les portefeuilles de marques, que ce soit sur les groupes alcooliers ou sur les groupes de luxe, ce qui compte c'est vraiment la force des marques. En soi, LVMH ou Pernod Ricard ne sont pas des marques, Stellantis est une marque qui agglomère différents constructeurs. Mais le plus intéressant sur Stellantis, c'est le niveau des marges opérationnelles. C'est le niveau et le niveau des marges opérationnelles qui progresse, qui est énorme pour un constructeur automobile. Et on arrive, si on regarde aujourd'hui, à des multiples, à des valorisations qui sont encore attractives. Stellantis, aujourd'hui, vous achetez 5-6 fois le rapport annuel, 5-6 fois le résultat net. C'est vraiment pas grand-chose pour un constructeur automobile dont l'endettement est relativement maîtrisé et qui arrive à concentrer, encore une fois, les meilleures marques de moyen haut de gamme sur les marchés où elles sont. Donc Stellantis, moi, je suis toujours à l'achat.
Est-ce que Stellantis fonctionne comme un ETF automobile ?
Bah, techniquement, on n'en est pas loin. Après, il faut quand même... Si on voulait faire un ETF automobile, ce n'est pas inintéressant de regarder Toyota. Parce que c'est quand même un énorme constructeur et évidemment certains constructeurs allemands pour diversifier.
Merci beaucoup Félix d'avoir posé votre regard sur les thèmes à surveiller en ce début de publication des entreprises que nous allons décortiquer au fil des jours dans BFM Business. Ça vous concerne, on parle d'histoire d'entreprise, on ne parle pas que de cours de bourse, on décrypte, on déchiffre dans cette émission avec nos experts. On vous retrouve mercredi Félix.
Avec grand plaisir.
On parlera un peu pharma je crois, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé pharma avec Laurent Grassin. On décryptera un petit peu ce secteur à nouveau et puis toutes les questions que vous aurez peut-être à nous poser pour que nos experts y répondent. L'adresse est direct à bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn, je vous lis comme Alain. Vous voulez savoir ce qu'on faisait de Stellantis ? On vous a répondu, cher Alain. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur le site BFM Business.